On se dit tout sur France Bleu, Vanessa Lambert.
Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé une bonne journée, une bonne semaine même, allons-y. Hein. On va la terminer ensemble la semaine et comme tous les soirs, vous avez la parole pendant 2 heures. C'est le principe d'On se dit tout sur France Bleu. On choisit un thème et vous venez nous raconter vos expériences, vos histoires, votre vie autour de ce thème. Le sujet de ce soir, les animaux, ou plus exactement, je travaille avec les animaux, c'est pas tout à fait pareil. Nous allons découvrir vos métiers, vos passions, vos vocation peut-être pour certains. On se dit tous, c'est parti et c'est jusqu'à 22h.
Vos témoignages, vos expériences. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
Je travaille avec les animaux, c'est le sujet d'On se dit tout jusqu'à 22h et on va démarrer cette émission avec Nathan qui est à Strasbourg. Bonsoir Nathan.
Bonsoir.
Vous êtes toiletteuse pour animaux.
Oui.
C'est une activité que vous faites depuis combien de temps?
Alors je fais cette activité depuis 18 ans.
Ah oui, quand même.
Voilà.
Vous avez toujours aimé les animaux, c'est un métier que vous vouliez faire?
Ça veut dire que j'ai toujours aimé les animaux, mais c'est suite à une petite reconversion, voilà, et je voulais travailler seule, et comme j'aime les animaux, je me suis lancée là-dedans, voilà.
Et avant, ça n'avait rien à voir, votre métier?
Ah non, je travaillais dans le tourisme.
Ah oui, effectivement. Alors, reconversion réussie, puisque ça fait déjà 18 ans. Qu'est-ce que vous aimez dans votre métier, Nathan?
Ah bah, surtout, déjà le contact avec les animaux, le contact avec les gens, parce que je me distingue un petit peu des autres, peut-être sur Strasbourg, parce que je permets aux gens de rester avec leur animal. Ça veut dire, si vous le désirez, d'ailleurs, quand vous appelez chez moi à mon numéro, automatiquement, je dis aux gens, vous pouvez rester avec votre chien, ça permet déjà que les gens voient un petit peu comment ça se passe, le temps que l'on passe, les chiens sont en confiance, et puis vous pouvez rester avec moi, je vous sers un petit café, voilà.
Ah, parce que moi je savais pas qu'on n'avait pas le droit de rester. En fait, c'est à chaque fois, c'est on déposait le chien
on
et au revoir.
Le chien, généralement, les gens, ils repartent.
Et triste, puis, ils savent pas ce qu'on leur fait, leur petit toutou.
Qu'est-ce qu'on leur fait? Ça dépend de ce que vous avez comme race. Donc, on va dire que pour tout chien, on a besoin de venir un petit peu régulièrement. Donc, les chiens à poil, tout ce qui est poil long, il faudrait venir tous les 2 mois pour faire une petite coupe ou une petite tonte ou différentes choses. On fait une coupe de griffes. C'est vraiment le toilettage complet avec le bain, la crème, le séchage. Donc, ça peut durer entre 1h30 et 2h30 suivant le chien.
Suivant la taille du chien. Est-ce qu'ils aiment ça, les animaux? Comment ils réagissent? Est-ce que c'est agréable ou...
Ça se passe très bien. On peut dire depuis 18 ans, j'ai jamais eu vraiment de soucis de chien que de me faire mordre par les chiens. Donc ça se passe très très bien.
Mais c'est un moment de plaisir pour eux ou est-ce que, l'eau, le shampoing, tout ça, ça leur...
Ils ont tous un petit peu leur manie, ça veut dire il y en a qui n'aiment pas trop le bain, il y en a qui n'aiment pas trop qu'on leur touche les papattes, mais disons, on voit quand même que la bête, quand elle arrive des fois dans un état déplorable, ils sont très très contents qu'on leur enlève toute leur fourrure, et puis on voit après le regard du chien, il s'éclaire, et je dirais que c'est la plus belle des récompenses qu'on peut avoir, quoi, voilà.
Vous dites tout à l'heure, vous nous avez dit tous les 2 mois ou tous les 3 mois, est-ce que les maîtres sont vraiment au courant des soins qu'il faut faire aux animaux?
Non, pas toujours, et c'est ça, c'est qu'il y a des fois des gens justement qui viennent avec des chiens qui sont dans un état déplorable, donc on est obligé de tout enlever, on leur demande de revenir, ne pas attendre peut-être 6 mois pour revenir, alors il y a des gens qui sont intelligents qui reviennent, et il y en a d'autres, qui essaient tous les toiletteurs et qu'on voit jamais, voilà.
Mais les chats, comment ça les chats dans un état déplorable, pourquoi?
Les chiens, parce que les maîtres ne les entretiennent pas du tout. Et on croit qu'on prend un animal, je dirais toujours, c'est un animal, c'est qu'on adopte ou qu'on achète un chien, il faut savoir que c'est un budget, c'est ça. Et les gens, ils oublient un petit peu ça, ce qui veut dire que si le chien n'est pas bien, il faut aller voir un vétérinaire. Il faut quand même ne pas se retrouver avec des chiens qui ont des griffes très longues et qu'on n'est pas venu au toilettage pendant un petit moment.
Ah, vous faites les griffes aussi alors?
Ah, je fais
partie
aussi
de votre
les griffes,
métier.
Ça veut dire quand vous venez avec n'importe quel chien, je vérifie les griffes et donc je coupe les griffes, quoi, voilà.
Est-ce que c'est un métier qui peut être créatif, Nathan? Est-ce que vous pouvez faire des coupes un peu originales aux chiens ou ça reste vraiment la tradition?
Non, mais disons... créatif, bien sûr, parce que pour chaque race, surtout les petits, je dis jamais les petits bâtards, moi je dis toujours les petits croisés, on essaie quand même de refaire, tout ce qui se rapproche, on va dire, le plus de la race, quoi. Donc c'est sûr.
Les gens vous demandent pas parfois des choses un peu extravagantes?
Non, non, non. non. Strasbourg, on reste quand même dans un... Bon, c'est déjà arrivé qu'il y a une dame qui me demande une couleur pour chien, qu'elle avait un caniche.
Oula.
Alors là, bon...
C'est dangereux, là, ça, pour les chiens, en plus.
Choses. Non, on va dire quand même que ça reste quand même... ça reste quand même des choses...
traditionnel.
Traditionnel, oui. Mais c'est vrai, ce qu'il y a aussi, on peut dire, c'est qu'il y a des gens un petit peu, le, je dirais, le, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui prennent des chiens à poils longs et qui veulent de la tonte. Alors là, ça fait toujours un peu mal au cœur, parce que j'estime, si on a pris une certaine race, eh ben, c'est pour l'entretenir. On va dire un York qui n'a plus du tout de poils, qui est tondu, eh ben, c'est pas chouette. Quoi. Voilà.
Dernière question, Nathan. Est-ce que vous avez vu le film Édouard aux mains d'argent ?
Oui, je l'ai vu. Oui.
Ah, ça vous a pas inspiré, ça, de faire des coupes aux chiens comme Johnny Depp?
Non.
Non. C'était juste la question, qui sert à rien. Nathan, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, de nous avoir présenté votre métier que vous
en
aimez,
tout cas,
ça s'entend.
C'est un très beau métier. Moi, je dirais aujourd'hui, c'est un métier, bon, on ne devient pas milliardaire, hein, ça, il faut bien se le dire, mais c'est un très beau métier. Je ne regrette absolument pas de m'être converti. Voilà.
Merci, Nathan. Bonne fin de soirée.
Merci beaucoup à vous.
Au revoir.
Bonsoir.
Le soir, sur France Bleu, on se dit tout.
Et jusqu'à 22h, on écoute vos histoires, vos parcours, à vous qui travaillez avec les animaux. Et nous sommes maintenant en Normandie, chez Fabrice. Bonsoir Fabrice.
Bonsoir.
Votre métier, c'est éleveur de chevaux, mais c'est plutôt de votre passion dont nous allons parler ce soir, puisque vous êtes photographe animalier. C'est une vraie spécialisation, une vraie spécialité dans la photo?
Oui, je pense tout à fait que c'est une spécialité pour avant tout les amoureux de nature.
Ça a commencé comment, vous, cette passion de la photo animalière?
Oh, ça a commencé dès mon plus jeune âge. J'ai eu la chance de vivre mon enfance au bord du pays des mille étangs, la Brenne. Et puis, des amis m'ont initié à aller observer les oiseaux sur les étangs, les cerfs dans la forêt à proximité. Et puis, de l'observation est venue tout naturellement la photo pour essayer de ramener un peu en quelque sorte
un souvenir
des observations que j'avais pu faire. Et puis c'est parti comme ça, donc aux alentours de l'âge de 15 ans, j'ai commencé à faire de la photo animalière et jusqu'à maintenant, ça ne m'a plus jamais quitté. Quoi.
Il faut être patient quand on veut photographier
oui.
les animaux. Vous parliez d'observation,
oui,
c'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps à attendre avant de les capter.
Ben déjà on ne peut photographier un animal que si on connaît son environnement, ses habitudes, ses attitudes. Son alimentation et tout ça. Si on va pas s'en aller à l'improviste photographier n'importe quelle espèce. Il faut travailler dessus, il faut la connaître et quand on la connaît bien, on peut alors s'initier dans son intimité, si on peut dire, et pouvoir ramener des clichés un petit peu qui sortent de l'ordinaire.
Mais alors comment vous faites? Vous décidez le matin que vous voulez photographier tel animal et c'est un vrai travail de préparation ou c'est un peu au petit bonheur la chance?
Non, il y a un vrai travail de préparation. Il y a avant tout un premier travail d'observation pour quand c'est dans une nature de proximité. Et puis quand c'est une nature beaucoup plus lointaine, là, il y a un travail de préparation du voyage. Comment se rendre, où se rendre, à quelle époque se rendre pour photographier quelle espèce.
Vous avez photographié combien d'espèces différentes? Est-ce que vous le savez, Fabrice?
Oh, c'est difficile à dire. Pour ce qui est de la faune locale normande, je pense que j'ai déjà pu observer et photographier un grand nombre d'espèces courantes, qu'elles soient migratrices ou sédentaires d'ailleurs. Et puis après, moi qui suis passionné par l'Amérique du Nord, donc l'Alaska et le Canada pour mes deux pays principaux, c'est vrai que là, j'ai pu aller photographier les ours bruns, noirs et blancs, les loups et puis tous les grands herbivores, caribous, élans et compagnie qu'on peut rencontrer dans ces contrées, les baleines, la faune marine.
C'est génial.
Etc.
Mais quand on part photographier un ours ou un loup, forcément, c'est pas comme aller photographier les oiseaux dans la forêt. C'est-à-dire qu'il faut aussi prendre des précautions. On s'approche pas forcément trop près non.
Alors,
plus. Comment vous faites?
Tout ça dépend vraiment des circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. Par exemple, lorsqu'on part photographier les ours bruns sur les rivières où les saumons viennent frayer, je veux pas dire que le danger est zéro puisqu'on est en contact avec des grands prédateurs. Mais il y a moins de danger, je me sens plus en sécurité lorsque je suis au milieu des grizzlies sur une rivière bourrée de saumon que quand je prends ma voiture et que j'ai un trajet à faire en France.
Voilà. Vu comme ça, pourquoi pas.
Voilà.
Il y a eu des rencontres parfois qui vous ont fait peur, enfin impressionnantes, peut-être pas forcément peur danger de mort, mais vous vous dites ouf, ça a été chaud là quand même.
Ben, on a souvent effectivement des petits moments où on peut avoir des doutes, entre autres avec ces animaux-là, entre autres l'ours. Ça m'est arrivé avec une femelle grizzly une fois qui était pourchassée par un mâle que je n'avais pas vu et elle n'était pas réceptive pour la reproduction. Cette femelle a poussé des subadultes vers moi. Les subadultes ayant peur de la femelle se sont cachés derrière moi, se sont protégés en gros dans mon dos. Et puis elle voulait absolument passer parce que le mâle la suivait, mais je vous dis, ce mâle, je ne l'avais pas vu. Et c'est vrai que je me suis trouvé d'un coup
entre les deux
ours qui voulaient partir. Et la femelle a fait une pseudo-charge sur moi pour que je me pousse. Évidemment, j'avais pas reculé au début parce que j'avais les autres derrière moi. Donc là, le fait qu'elle ait fait une pseudo-charge, les trois subadultes qui étaient derrière moi ont eu peur aussi et se sont écartés. Moi, j'ai pu m'écarter, je l'ai laissé passer. C'est là que j'ai vu l'autre ours qui la suivait sortir des buissons. Donc là, vous voyez, c'est la femelle avait absolument aucun signe d'agressivité envers moi. Seulement, j'étais sur son territoire, j'étais sur son passage, je la gênais.
D'où l'importance de bien connaître, comme vous disiez, l'environnement des animaux que vous photographiez. J'ai une question qui est très compliquée pour un photographe, mais je vais quand même la tenter. Fabrice, quelle est la photo dont vous êtes le plus fier aujourd'hui parmi tous les animaux que vous avez photographiés?
Ah, je ne sais pas, il y a... Je sais pas si c'est la photo ou si c'est la rencontre qu'on peut dire, parce que j'ai eu des rencontres absolument fabuleuses, entre autres un soir en Alaska sur une rivière où un loup est sorti pêcher devant moi. Ça, ce sont des moments pour un photographe animalier qui sont énormes. C'est un comportement rare, très connu, mais rare à observer, rare à photographier. Le loup est difficile à photographier. Et quand vous avez tous les paramètres qui sont là, entre la lumière, le sujet, l'action, c'est absolument phénoménal. Et là, c'est vrai que j'ai fait une série d'images qui ont entre autres été primées à un concours qui était fabuleuse. Hein. La BBC m'a contacté quand elle a vu les images pour savoir où c'était, parce qu'ils voulaient aller filmer les loups qui pêchaient. Ce sont des images qui marquent. Après, pour rester sur de la faune de proximité, j'ai beaucoup travaillé sur les chouettes parce que c'est un oiseau qui me passionne. Et c'est vrai que j'ai eu des moments où j'ai ramené des images nocturnes de chouettes. Donc là, il y a toute une technique, toute une préparation aussi pour pouvoir faire ces photos-là, mais qui étaient vraiment très surprenantes. J'ai suivi pendant 2 ans des couples de chouettes chevêches. Qui sont bons, un oiseau relativement commun chez nous. Hein. Mais j'ai pu les photographier avec des multitudes de proies, des comportements différents. Et là, on a un vrai travail de fond sur une espèce, et ça, c'est aussi très intéressant. Quoi.
Fabrice, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir sur France Bleu. Et puis pour ceux qui veulent voir votre travail, il y a votre site internet fabricesimon.com. Merci et belle soirée à vous.
Racontez-nous votre histoire. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
Travailler avec et pour les animaux, c'est le sujet qu'on a choisi pour vous ce soir sur France Bleu dans On se dit tout et direction la Vendée où nous retrouvons Ludovic. Bonsoir Ludovic.
Bonsoir.
Alors vous avez longtemps travaillé avec les chevaux, pas comme monsieur, madame, tout le monde, parce que vous étiez cavalier voltigeur au parc du Puy du Fou.
Mais tout à fait, tout à fait. Enfin, j'ai fait cavalier voltigeur, j'ai été palefrenier, soigneur. Donc je suis passé un peu par toutes les étapes au niveau du spectacle avant d'être cavalier.
Comment ça se passe quand on arrive? Parce que j'imagine que c'est au millimètre près, les spectacles du Puy du Fou. Comment ça se travaille? Comment on travaille avec un animal qui bouge tout le temps, qui n'écoute pas toujours ce qu'on dit?
Alors, c'est des mois de préparation. Même quand le parc est fermé, finalement, il y a toujours des cavaliers qui sont là pour préparer les chevaux. Et ils ne restent jamais inactifs. Ils sont toujours préparés. C'est vrai que c'est des sportifs, comme les cavaliers d'ailleurs. Donc, c'est répéter, répéter, répéter pour que le cheval aussi se sente bien sur scène. Et puis après, il faut être concentré pendant le temps du spectacle pour faire ce qu'on a à faire.
Ça dure combien de temps, les passages avec les chevaux sur le spectacle?
Sur le spectacle où j'étais, moi, on les voit quand même tout le long, donc c'est 25
minutes. Ah oui, donc il faut être à fond, vraiment.
Pour certains, ils font toutes les scènes, certains font que quelques scènes sur le spectacle.
D'accord. Quand vous dites vous êtes passé par tous les métiers avant d'être cavalier voltigeur, c'est comme ça qu'on dit, hein, je crois. Oui. Ça veut dire que vous êtes entré au Puy du Fou grâce aux chevaux ou c'est les chevaux, comment ça s'est passé un jour? Vous êtes dit moi je veux travailler avec les chevaux et pourquoi pas le Puy du Fou? Comment l'opportunité s'est retrouvée?
Alors le Puy du Fou m'a aidé à monter à cheval en fait. C'est quelque chose que j'avais toujours envie quand j'étais gamin. Sauf que c'était très, très onéreux quand mes parents de payer des cours en centre équestre pour pouvoir monter à cheval. Et puis, est arrivé le Puy du Fou, je suis devenu saisonnier là-bas. Et grâce à l'Académie Junior, jusqu'à 25 ans, on a le droit de monter à cheval en tant que Puy Follet, donc tout l'hiver. Donc, il nous permet de monter avec des très bons chevaux, avec du très bon matériel et d'apprendre avec des personnes qui sont compétentes dans le domaine du spectacle.
Vous avez vraiment gravi les échelons petit à petit, là. Hein.
Oui, j'ai commencé donc à pied sur les spectacles à côté des chevaux. Et l'hiver, j'ai travaillé comme palefrenier-soigneur. Donc, l'alimentation, les soins des chevaux pendant l'hiver. Et je continue à monter à cheval et jusqu'au jour où j'ai pu enfin aller en spectacle à cheval.
Et là, c'était un grand moment, j'imagine.
C'est un grand moment, oui, tout à fait.
Vous n'avez jamais eu de mauvaise surprise le soir du spectacle parce que les chevaux sont quand même imprévisibles?
Pas de mauvaise surprise, non, c'est plus après des coups de stress qu'on peut avoir, nous, avant un spectacle, parce que ça s'est mal passé un peu à l'échauffement, que le cheval est un peu tendu, il faisait chaud, on n'est pas forcément toujours bien, des fois, à enchaîner quatre spectacles dans la journée sous la chaleur. C'est vrai que c'est plus de notre part qu'il peut y avoir un souci.
Oui. Les cascades, après, c'était votre quotidien, vous faisiez des cascades sur les chevaux?
Oui, on faisait des cascades, on montait aussi sur le plat. Enfin, monter sur le plat, ce que je veux dire, c'est on monte en carrière aussi. Il y a des chevaux qu'on prépare aussi sur le plat, même pendant la saison.
D'accord. Alors aujourd'hui, c'est fini ça pour vous, les représentations, ou vous êtes toujours un petit peu dans le milieu?
Oui, c'est fini au niveau du Grand Parc. Après, je suis toujours à pied sur la Seine-et-Saint-Denis à la cavalerie. J'ai eu malheureusement un petit accident à cheval et je me suis pété les ligaments croisés et ménisques. Donc j'ai décidé de ralentir un petit peu au niveau cascade, il n'y en a plus du tout.
Mais il y a toujours des chevaux autour de vous?
Il y a toujours des chevaux autour de moi et de ma compagne. Elle était cavalière aussi avec moi au Puy du Fou. Et on a nos chevaux, des retraités du Puy du Fou d'ailleurs, qu'on a ici.
Des retraités du Puy du Fou, j'aime beaucoup ça. Des chevaux retraités.
Oui, les chevaux retraités du Puy du Fou.
D'accord.
Et oui, donc ils méritent aussi d'avoir une retraite après des années de travail. Donc c'est vrai que c'est appréciable d'avoir des chevaux qu'on a montés nous-mêmes et puis qu'on a apprécié de leur offrir une belle retraite derrière.
Merci beaucoup Ludovic d'avoir été avec nous, de nous avoir parlé de votre carrière au Puy du Fou. On peut vraiment parler de carrière artistique et cet amour pour les animaux, parce que je pense que ne pas aimer les animaux et vouloir les monter, c'est impossible, hein. Vous confirmez?
Impossible. Oui.
Merci, bonne fin de soirée à vous Ludovic.
Merci, pareillement, au revoir.
Au revoir.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout.
Et jusqu'à 22h, on vous écoute nous parler de votre métier, vous qui travaillez avec les animaux. On a eu une toiletteuse, un photographe, un cavalier voltigeur. Et nous allons maintenant accueillir Edmé en région parisienne. Bonsoir Edmé.
Bonsoir Vanessa.
Vous êtes ostéopathe pour animaux. C'est comme notre ostéo à nous, en gros?
Oui, tout à fait, c'est comme notre ostéo à nous. C'est le même principe, une thérapie manuelle qui vise à déceler des tensions dans le corps, des déséquilibres, des manques de mobilité. On manipule ensuite l'animal et on essaye de rétablir un équilibre plus favorable.
Ce sont les mêmes études qu'un ostéo pour les hommes, ou il y a une spécialisation qui se fait à un moment donné?
Alors, on peut être ostéopathe animalier en trois façons différentes, en faisant trois formations différentes, soit en étant vétérinaire et en faisant une spécialisation d'ostéopathie, soit en étant ostéopathe du coup pour les humains et pareil, on se forme ensuite auprès des animaux. Et moi, j'ai fait une école privée qui forme à l'ostéopathie animale directement après le bac.
Alors vous intervenez à quel moment, Edmé? Pour quel type d'animaux? On fait appel à vous à quel moment? Quand c'est trop grave ou en prévention parfois?
On aimerait bien que ce soit un peu plus en prévention, mais en général c'est un peu soit en dernier recours, soit quand l'animal va pas bien, qu'il boite, qu'il a mal au dos. qu'il a des troubles digestifs ou respiratoires, qu'il est globalement qu'il a une baisse de forme et que voilà, qu'on trouve pas trop comment s'en sortir.
Et vous travaillez sur tous les animaux ?
Moi, je travaille essentiellement sur les chiens et chats, étant en région parisienne.
Oui, on les trouve chevaux, un peu moins de chevaux, ouais. De sangliers, oui, c'est sûr.
Ouais. Les chevaux, ça arrive aussi. Et puis après, voilà, on peut intervenir aussi auprès des rongeurs. Je sais que j'ai des collègues qui travaillent avec des reptiles aussi, donc il y a beaucoup de choses qui sont possibles.
Comment on fait pour... Alors là, c'est des chats, des chiens, mais quoi, parfois, il y a des gros chiens. Mais comment on fait pour soigner un animal gros, parfois, sans qu'il s'énerve, sans qu'il ait de mouvements brusques? Parce que autant un adulte, on arrive à le canaliser, autant un animal, c'est pas toujours évident.
Oui, je comprends votre question. Ben en fait, c'est pas tellement la taille qui compte, c'est plus le caractère et un peu l'état de douleur. Est-ce que la douleur est élevée ou pas? Et est-ce que l'animal a beaucoup de caractère? Parce que finalement, un chat peut être très difficile à maintenir près de soi et à manipuler, alors qu'un grand chien peut être tout à fait docile et se coucher assez rapidement et profiter de la séance. Donc, c'est vraiment une question d'aborder l'animal avec douceur, patience et essayer de lui montrer qu'il peut avoir confiance en nous et qu'on n'est pas là pour lui faire du mal et plutôt pour l'aider.
Oui. Est-ce que vous êtes, c'est un peu la question qui fâche, mais est-ce que vous êtes reconnu par exemple par les vétérinaires? Est-ce que spontanément un vétérinaire qui va recevoir un animal va dire à son maître, bah, allez plutôt voir un ostéo pour animaux, je pense que ça serait bien pour lui, ou est-ce que c'est encore un peu cloisonné?
C'est encore un peu cloisonné, malheureusement, parce que nous, on aimerait bien travailler en synergie avec les vétérinaires et pouvoir discuter de certains cas et travailler ensemble pour que l'animal aille le mieux possible. Mais malheureusement, enfin, des témoignages des propriétaires de mes patients, c'est pas trop le cas. Donc voilà, ils le suggèrent, mais on n'a pas trop de contact avec les vétérinaires et du coup, je pense qu'ils n'ont pas trop de noms d'ostéopathes à donner à leurs clients. Et
c'est marrant,
le lien ne se fait pas toujours.
Vous dites les patients en parlant des animaux, c'est rigolo.
Oui, oui, ce sont mes patients.
Alors là, vous le dites, hein, Edmé, vous êtes en région parisienne, donc plutôt des chats et des chiens. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous dites, j'aimerais bien bouger pour peut-être travailler sur d'autres animaux? Est-ce qu'il y a des animaux qui vraiment vous intéressent, vous fascinent, vous attirent, ou vous dites, là, ça pourrait être intéressant aussi de travailler avec eux?
Alors effectivement, surtout qu'au début, j'ai choisi cette voie-là parce que j'aimais beaucoup les chevaux et je voulais travailler avec les chevaux. Donc j'aimerais bien voilà pratiquer un peu plus sur les chevaux, mais j'ai l'occasion d'aller en Normandie pour pratiquer aussi là-bas, donc et pour le coup c'est plutôt une terre de chevaux, donc c'est pas ce qui manque. Après j'adore les chiens aussi, je découvre un peu plus les chats à chaque fois parce que j'avais jamais eu de chat à moi, mais j'ai pas d'animal préféré, on va dire.
En tout
c'est
cas,
toujours intéressant.
Ce qui est sûr, c'est quand on voit que son animal ne va pas très bien et qu'il n'y a pas de raison particulière, on peut se dire c'est peut-être un petit problème, c'est peut-être un petit recadrage à faire. Et là, effectivement, l'ostéo arrive au bon moment.
Oui, bien sûr. Et puis, il faut savoir qu'on est aussi capable de dire que ce n'est pas pour nous et que, et voilà, rediriger vers un vétérinaire pour être sûr qu'il n'y a pas un problème plus important et plus profond.
Merci beaucoup Edmé d'avoir été avec nous, nous avoir présenté en quelques minutes votre métier d'ostéopathe animalier. C'était un plaisir de vous accueillir sur France Bleu.
Merci beaucoup, je vous en prie.
Bonne soirée, au revoir.
Bonne soirée.
Vos témoignages, vos expériences. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
Connaissez-vous le métier de pet sitter? Il est très répandu outre-Atlantique. On voit souvent des jeunes demoiselles promener une dizaine de chiens à la fois. En France, le métier est encore méconnu et pourtant, c'est un vrai métier à part entière. Et on va en parler avec Barbara qui est dans l'Ain. Bonsoir Barbara.
Bonsoir.
Pet sitter, c'est vraiment la traduction de babysitter pour les animaux?
À peu près, oui. C'est un peu nounou pour chien, oui. Plutôt, oui. C'est vraiment babysitter à part entière, c'est-à-dire extrêmement que pour les chiens.
Que pour les chiens.
Les animaux, oui, tout à fait.
Mais ça consiste en quoi? Vous gardez les animaux? Vous les sortez pendant que les maîtres sont en vacances? Comment ça se passe?
Alors, ça dépend, en fait. Ça dépend déjà avec quel organisme on fonctionne. Moi, en ce qui me concerne, c'est Animote. Donc, on est à peu près libre de ce qu'on fait. Moi, je prends le chien en garde. Il y a une conciliation qui se fait toujours avec le propriétaire. Si ça se passe bien, le chien est avec moi. Le chien, dès lors qu'il est avec moi, je fais partie de la famille. C'est exactement comme si c'était le mien. Donc, je sors, je pars, je fais des courses, il vit avec moi au quotidien. On sort avec d'autres animaux ou d'autres chiens si jamais il y a d'autres pet-sitters qui sont d'accord de sortir ensemble. On fait des activités pour certains. En fait, il fait entièrement partie de la famille. C'est pas une pension, c'est vraiment quand le pet-sitter prend le chien, c'est son chien.
Mais vous les gardez combien de temps? Ça peut être une soirée, ça peut être une semaine, ça peut être 15 jours?
Ah, c'est très divers. Il peut y avoir une semaine, comme une matinée, comme une journée, comme une nuit, comme des fois des semaines ou des week-ends, où il peut y avoir très... Parfois, moi, ça m'est arrivé même d'avoir toute une année un chien que je rendais deux fois par semaine, où il peut y avoir, ça dépend, un mois pendant les périodes de vacances, trois semaines pendant des périodes d'hospitalisation. C'est vraiment varié.
Et vous pouvez en avoir combien à la fois? Ça vous est arrivé d'en avoir vraiment beaucoup à la maison?
Alors, il y a une législation maintenant qui encadre ça. Avant, c'était pas tout à fait l'obligation. Maintenant, on est quand même restreint. Hein. C'est un minimum par rapport à un minimum de mètres carrés. Moi, j'ai 700 mètres carrés, donc je peux très bien largement avoir au moins minimum 5 chiens. Sachant qu'on ne peut pas s'amuser à avoir 5 mâles ou 5 femelles, il faut vraiment quand même être très, très calé sur le sujet.
Ah, sinon, ça c'est le problème un peu.
Au quotidien, c'est quand même particulier. Si vous n'êtes pas calé sur le chien, il y a des conflits, il peut y avoir même des problèmes. Donc, il faut vraiment quand même tout le temps avec les chiens.
Oui, et ça veut dire aussi qu'il y a un entretien avec les maîtres avant, pour bien connaître l'animal, son caractère, ses habitudes.
Alors, moi, je ne sais pas comment fonctionnent les autres, mais moi, je demande toujours ce qu'on appelle une conciliation, c'est-à-dire que les personnes viennent avec leur chien. On se rencontre. Ils me parlent beaucoup de leurs chiens. Je vois comment ils interagissent avec leurs toutous, les rapports qu'ils ont, les bêtises, s'ils ont des mauvaises habitudes, genre on ouvre le portail, il s'en va.
Ça, ah oui.
C'est une mauvaise habitude, donc il faut quand même voilà. Une fois que le propriétaire est super assuré que le chien, il s'entend avec le chien qu'on a nous, parce que c'est quand même essentiel. Ils reviennent avec l'animal, le carnet de santé, un contrat, parce qu'il y a un contrat et une assurance qui est obligatoire, faut quand même le savoir, on peut pas s'amuser à garder un chien comme ça. Et à partir de là, ça se passe super bien. Enfin, pour ma part, en tout cas, ça se passe super bien.
Mais parce que vous avez l'habitude, ça fait combien de temps, Barbara, que vous êtes pet sitter?
Légalement, ça doit faire depuis 2009. Hein, j'avais fait, 3 mois avant pour être sûr de vouloir faire ça professionnellement en tant qu'auto-entrepreneur. Mais avant, c'était pas encadré. Maintenant, ça l'est, donc on est vraiment obligé de le faire. Mais ça fait un moment. Et puis bon, voilà, moi, ça a été naturel. Hein. J'ai pas cherché à comprendre, c'était clair et net. Les toutous, c'est... voilà.
Alors, de la même façon, vous nous disiez tout à l'heure, je suis un peu la nounou pour les chiens. Forcément, quand on envoie ses enfants, quand on laisse ses enfants à une nounou, les enfants s'attachent à la nounou et la nounou s'attache aux enfants. Est-ce que c'est pareil, vous, avec les chiens que vous gardez sur des périodes plus ou moins longues? Vous vous dites, oh tiens, je repense à tel chien, j'aimerais avoir de ses nouvelles. Et vous en avez peut-être parfois?
Alors, au début, tout au début, je sais que j'avais tendance à m'attacher à tous les chiens de la même manière. C'était les miens, j'avais du chagrin quand je les rendais, je savais que c'était pas les miens. Après, on s'encadre un petit peu plus quand même, on se restreint à certains sentiments pour un comportement déjà plus pro. On peut pas non plus tout dégager au niveau de l'empathie par rapport au chien pour qu'il soit malheureux de retrouver son propriétaire. Mais il est clair qu'il faut pas rêver. Dans l'intimité, le chien sait très bien que je l'aime à 200% et il risque rien, il est avec moi. Et c'est vrai que parfois c'est dur de les rendre. Pour certains, c'est très très dur. Je vais pas vous mentir. Et les propriétaires, des fois, ils m'en veulent parce que le chien en rentrant, il va sur le canapé. Moyen.
Bah ouais. Mais comme avec les enfants et les nounous, hein, finalement, le parallèle est assez proche. Y a beaucoup d'ados qui veulent faire pet sitter pour gagner un petit peu de sous pendant les vacances. Qu'est-ce que vous leur dites à ces ados-là? C'est un vrai métier?
Attention, je leur dis attention, parce que c'est un métier aujourd'hui, la génération a changé, les lois ont changé, on peut plus faire la même chose, et puis l'alimentation des animaux, leur caractère ont changé aussi, on le voit, enfin moi je vois depuis plus de 10 ans quand même, les chiens ont changé, il y a des chiens qui sont caractériels, on peut pas s'amuser à le laisser par exemple une journée entière, même si pendant qu'on fait les courses tout seul à la maison avec un autre chien, il risque d'avoir un conflit, il faut vraiment être quand même très encadré. Après, elles peuvent le promener, savoir... il faut vraiment s'y connaître, il faut vraiment savoir ce qu'on veut faire à ce moment-là. Gagner de l'argent, c'est bien, faire ça, mais pas en prendre plusieurs à la fois. Dans ce cas-là, un par un, c'est très bien.
Voilà. Merci beaucoup, Barbara, d'être venue nous parler de votre métier de pet sitter, métier qu'on connaît mieux désormais grâce à vous. On était ravis de vous accueillir sur France Bleu. Bonne fin de soirée.
Vous aussi. Et puis écoutez, j'espère qu'il y en aura plein d'autres, parce que c'est vrai que c'est un plaisir. C'est vraiment un plaisir.
À bientôt, Barbara. Au revoir.
À très bientôt. Au revoir.
Le soir, sur France Bleu, on se dit tout.
Je travaille avec les animaux, c'est le sujet dont se dit tout jusqu'à 22h. Et s'il y a bien un endroit où on travaille avec des animaux, c'est au zoo. Plein de métiers différents, plein d'animaux différents aussi. Et on a la chance d'avoir Hervé Santerre, le directeur zoologique du zoo d'Amnéville en Moselle. Bonsoir Hervé.
Bonsoir.
Directeur zoologique du zoo, ça veut dire quoi exactement? Vous vous occupez de tous les animaux, c'est ça?
Ouais, en fait, bah, pas tous les animaux. Disons que je m'occupe de toute la partie technique de la zootechnie, c'est ce qu'on appelle la zootechnie dans le jargon. Donc en fait, je m'occupe des 65 soigneurs animaliers, de la gestion de la collection évidemment, des différents transferts d'animaux, mais surtout le planning de travail. Donc mois par mois, donc pour bien gérer tout ça, pour que toutes les équipes soient complètes et qu'il n'y ait pas de manquement sur les différents postes de soigneurs animaliers.
Alors quand on a beaucoup d'animaux, je crois qu'il y en a vraiment beaucoup hein, au zoo d'Amnéville, il y en a combien au total?
On a 2500 animaux pour oui. À peu près plus de 350 espèces. Oui, donc oui, ça fait beaucoup, oui.
Ça veut dire plein de métiers aussi spécifiques, plein de gens qui s'occupent de ces animaux?
Ah oui, on a. Bah, alors le fait qu'en plus on est un zoo privé, donc on a vraiment toutes les équipes en interne dans tous les corps de métier. Donc on a la spécificité aussi d'Amnéville, c'est qu'on a 3 vétérinaires à temps plein, donc ça c'est quand même assez rare dans les parcs zoologiques. Mais après tous les corps de métier sont représentés, c'est-à-dire qu'on peut trouver de l'électricien, des menuisiers, des plombiers. On travaille également en métallerie tout en interne. Donc voilà, enfin pour citer que des métiers techniques, mais après on a aussi des infographistes, on a des biologistes.
Mais sur les corps de métier. Mais sur les métiers qui vraiment s'occupent des animaux, vous avez parlé des soigneurs, alors, des vétérinaires, ouais, il y a qui voilà. D'autre en fait alors, qui intervient?
Les biologistes évidemment, hein, il y en a également dans cette partie-là, mais aussi on a des dresseurs, on a des éthologues, on a vraiment beaucoup de corps de métiers qui sont représentés à Amnéville.
Ouais, vous avez parlé des dresseurs parce que ça c'est une spécialité un peu chez vous quand même, le fait qu'il y ait des spectacles, ça veut dire que c'est pas juste des animaux qu'on regarde, c'est des animaux qu'il faut dresser aussi.
Ouais, alors à chaque fois, donc la méthode de dressage des zoos d'Amnéville, et c'est sur pour laquelle on a fait aussi Tiger World pour bien l'expliquer et pour bien faire comprendre aux gens, c'est vraiment un travail, ce qu'on appelle un travail en douceur, donc avec la complicité des animaux. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir des équipes qui soient suffisamment conséquentes pour qu'ils puissent passer un maximum de temps à proximité de son animal. Donc c'est ça qui est très intéressant aussi aux zoos, c'est que si vous avez vu le spectacle des otaries, vous voyez bien que cette complicité-là, elle n'est pas née en 15 jours. Ouais. Alors que nos soigneurs, ça fait pour la plupart d'entre eux, ça fait 10 ans qu'ils sont avec leurs otaries, et chaque jour, ils ont 8 heures de travail qui est consacrée uniquement à la complicité entre l'homme et l'animal. Donc voilà, c'est pour ça qu'on arrive à un tel succès et à une telle complicité.
Il y a des surprises tous les jours quand on travaille au zoo parce
oui,
que
oui,
c'est
oui.
Imprévisible c'est ce quand même les animaux.
Donc, voilà, c'est ça, c'est ce qui fait la particularité de mon travail. C'est-à-dire que le matin quand j'arrive, j'ai une trame qui est plus ou moins respectée chaque jour, mais après, comme on travaille avec des animaux vivants, évidemment, il y a toujours des surprises. Alors c'est parfois des naissances, mais ça peut aussi parfois être des drames, hein, parce que les animaux sont également malades comme nous, les êtres humains. Hein. C'est-à-dire que toutes les maladies qu'on retrouve en humaine, on les retrouve aussi chez l'animalier, malheureusement. Donc on a parfois des tristesses, mais on a aussi des grands moments de joie. Et c'est un petit peu ça, parce que c'est un petit peu les montagnes russes des sentiments, hein, parce qu'il y a des jours où c'est super, super joyeux parce qu'on a une naissance le matin, et puis et l'après-midi ou le soir, on peut avoir un résultat de prise de sang qui nous annonce une maladie grave chez un de nos pensionnaires. Et bon, voilà, c'est ça qui est dur à gérer. J'avoue que dans les premières années, bon, ça fait 18 ans maintenant que je suis au zoo, donc je m'y suis fait, j'ai envie de dire, mais les premières années, c'était dur parce que c'est pas facile à gérer ces sentiments comme ça, ces yo-yo de sentiments, il faut savoir gérer et prendre un peu de recul aussi là-dessus. Ouais.
Est-ce qu'il y a un animal en particulier que vous affectionnez, vous, Hervé, vous dites j'adore vraiment cette espèce parce qu'ils sont trop mignons?
Évidemment, ouais. Alors pas qu'il soit trop mignon, mais c'est surtout en fait parce que moi j'ai le côté professionnel qui va forcément ressurgir, mais c'est la complicité qu'on peut avoir des animaux. Et moi je suis tombé amoureux des ours polaires. Je connaissais absolument pas cette espèce, évidemment, hein, ça court pas les rues, les ours polaires.
Ouais, c'est sûr.
Voilà, donc j'ai commencé à travailler avec eux, j'ai travaillé 2 ans avec eux, et voilà, c'est ce côté ours mal léché, hein, comme on dit tout le temps, c'est-à-dire qu'un jour ils sont de bonne humeur, le lendemain ils le sont pas, et surtout ils ont un mimique, ils ont un faciès qui soit joyeux ou qui soit en colère. C'est difficile à savoir. Ils ont un petit peu, on sait pas trop ce qu'ils expriment. Donc, on est toujours en fait à la recherche de ça, de savoir s'ils vont bien, comment faire pour améliorer encore leurs conditions de vie en captivité. Et surtout, en parallèle à ça, il y a tout un travail d'entretien des bassins où il faut plonger de longues heures pour aspirer les bassins. Et ce côté-là, donc, qui mélangeait le côté sportif et le côté animalier, ça m'a beaucoup plu. Et je suis tombé amoureux des ours polaires. Et c'est vrai que j'ai passé de longues heures avec eux et de très très bons moments avec eux. Ouais.
Et l'animal le plus capricieux, le plus compliqué à comprendre peut-être et à cerner?
Ah, Ça, c'est une bonne question. Je dirais que on dit toujours les éléphants choisissent leur soigneur et c'est pas le soigneur qui choisit son éléphant. Donc ça, c'est vraiment très démonstratif et c'est parlant. C'est-à-dire que si l'éléphant a pas envie de travailler avec vous, vous allez vite le comprendre et il va vite vous remettre à votre place de petit humain et vous avez plus envie de travailler avec eux parce que ça devient compliqué. Parce que ils sont très cérébrales, hein, c'est des animaux qui réfléchissent énormément, qui sont très intelligents. Et donc, si vous faites pas l'affaire, et ben, ils ont le moyen de vous faire comprendre que vous faites pas l'affaire. Et c'est vrai que, on a eu quelques mauvaises expériences avec des soigneurs qui étaient fous amoureux d'éléphants, mais qui, malheureusement, avec les individus chez nous, ça passait pas. Donc voilà, ça fait partie de la vie aussi du soigneur. Il faut savoir aussi se remettre en question et pas forcément se dire que bon, bah, parce qu'on a eu un échec à Amnéville, qu'on aura un échec toute sa vie professionnelle.
Là, ça y est, la saison est lancée au zoo d'Amnéville.
Eh bien non, on ouvre officiellement. Bon, allez, le parc est ouvert toute l'année, mais donc samedi matin, la forêt des ours va ouvrir donc ses portes à 9h30. Donc les gens vont pouvoir découvrir deux nouveaux espaces forestiers où on va pouvoir observer un nouveau couple d'ours bruns, donc qui sont arrivés la semaine dernière ici chez nous. Donc Sano et Nella sont deux jeunes ours de 6 et 7 ans qui sont arrivés dimanche et qui seront visibles dès samedi matin pour nos visiteurs. Et de l'autre côté, on a Oural, donc notre ours brun historique, j'ai envie de dire, hein, qui est né chez nous et qui vivait déjà chez nous depuis 19 ans, qui a déménagé. Donc il a quitté son ancien enclos pour un plus grand enclos avec beaucoup de végétation et un grand bassin. Et surtout, il cohabite avec un glouton, Vasile, le glouton. Voilà, il cohabite avec lui maintenant depuis un mois. Ça se passe plutôt bien. Et on va dire que ça a un petit peu rajeuni notre ours parce que Vasile ne se laisse pas faire. Et donc, ça profite à l'un et à l'autre parce qu'il y a vraiment une très belle complicité aussi entre les deux et c'est plutôt très drôle de les voir jouer là tous les jours dans cette nouvelle espace. Ouais.
Eh bien, on vous souhaite une très belle saison au zoo d'Amnéville et merci d'avoir été avec nous sur France Bleu.
Je vous en prie.
Au revoir.
Racontez-nous votre histoire. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
On découvre de nouveaux métiers ce soir. On vous écoute surtout nous en parler. C'est passionnant. Je travaille avec les animaux. C'est le sujet d'On se dit tout jusqu'à 22h. Et on file maintenant à Paris chez Claire. Bonsoir Claire.
Bonsoir.
Alors vous êtes comportementaliste. C'est quoi exactement votre métier ?
Alors je suis comportementaliste animalier. Et je travaille sur le comportement des animaux.
Oui.
J'aide les propriétaires à résoudre les problèmes de comportement qu'ils rencontrent avec leurs animaux, principalement, on va dire. Et voilà, je travaille avec les maîtres, parce qu'en fait, les animaux, eux, ne parlent pas. Donc, je fais parler les maîtres et je les aide, en fait, à soit à mieux comprendre leur animal, soit à les aider à bien démarrer, par exemple, s'ils adoptent un animal, donc un jeune ou même un animal dans un refuge, ou je les aide à résoudre des problèmes de comportement qui leur polluent la vie.
C'est quoi les problèmes de comportement ? C'est l'agressivité ? Ça va être des problèmes de propreté de l'animal ? Ça peut être
oui,
ça ?
Alors je travaille principalement avec les chiens, les chats, un petit peu les chevaux. Les comportements, ils peuvent être un petit peu différents entre les types d'animaux. Mais oui, l'agressivité, c'est quelque chose qui fait réagir les propriétaires assez vite. Après, il peut y avoir aussi ce qu'on appelle l'anxiété de séparation, c'est-à-dire les animaux qui ne savent pas rester seuls à la maison, le chien qui hurle à la mort pendant toute la journée et donc les propriétaires ont les voisins sur le dos. Ou alors le chien qui détruit, qui grignote les meubles en l'absence des propriétaires.
Ah oui, quand même.
Oui, il y a ça.
Mais qu'est-ce qui ressort de
c'est
ça? Ça veut dire
hein.
Quoi? Ah oui, c'est de l'anxiété, d'accord.
C'est de l'anxiété, en fait. Donc, l'animal a une anxiété. Et il va utiliser ce qu'il a à sa disposition, c'est-à-dire en fait ses dents, ses cordes vocales ou ses sphincters pour faire baisser son stress. Donc en fait, on peut avoir la même cause, on n'aura pas forcément le même comportement. Donc on peut avoir des chiens qui ne savent pas rester seuls, qui vont aboyer. Il y a des chiens qui ne peuvent pas rester seuls, qui vont faire pipi ou... et puis il y a ceux qui vont tout détruire dans la maison. Donc,
mais comment on les calme ces petits chiens là? Parce que vous dites c'est d'abord en discutant avec les maîtres.
Oui,
c'est-à-dire nous on doit adapter notre comportement, c'est ça?
Oui, tout à fait. Alors les causes elles peuvent être très variables. Donc c'est assez difficile de dire 105 minutes, mais en schématisant vraiment grossièrement, on apprend aux chiens à rester seuls.
Oui.
Donc, en fait, je travaille avec les maîtres pour ils apprennent à lâcher prise, pour que les propriétaires donc apprennent à lâcher prise. Et puis, il y a des petits trucs qu'on peut faire aussi pour l'animal, pour l'aider à mieux vivre sa solitude, sachant que la solitude, c'est quand même quelque chose qui est très humain. Puisqu'en fait, quand on a un animal de compagnie, on va travailler la journée et puis on le laisse à la maison. Or, en liberté, ils sont plutôt en groupe.
Oui. Et donc, lui, il a besoin d'un humain de compagnie, en fait.
Exactement. Et puis, donc, il y a des choses à faire. Alors, soit c'est que de l'apprentissage un petit peu basique, soit il peut y avoir d'autres choses aussi. Parce qu'en fait, il peut y avoir aussi des problématiques humaines. Bon, ça dépend aussi pourquoi on a l'animal, etc. Donc, oui. Il peut y avoir plein de causes, quoi.
Vous disiez tout à l'heure, Claire, souvent c'est après une adoption, en refuge notamment. Les gens sont prêts à accueillir un animal dans leur vie ou est-ce que parfois, ils devraient peut-être un peu plus réfléchir? Vous en voyez forcément beaucoup des gens qui ont fait un peu n'importe quoi?
Disons que prêts, je sais pas, en fait, quand les gens adoptent un animal, souvent c'est parce que au moins un membre de la famille voulait un animal.
Faut que tout le monde le veuille, c'est ça,
voilà.
En fait.
Logiquement, il faudrait que tout le monde le veuille. Et puis, il faut voir aussi pourquoi on a l'animal. Alors, c'est vrai qu'il y a des cas de médiation animale où on aide les gens qui ont un mal-être à surmonter ce mal-être en adoptant un animal, par exemple. Ou pour un enfant qui aurait des problèmes psychologiques, on peut lui donner un animal pour l'aider à s'ouvrir au monde, etc. Ou à se calmer, ou à se responsabiliser, des choses comme ça. Mais dans la majorité des cas, bon, les familles sont toutes d'accord en général, enfin, les membres de la famille sont toutes d'accord en général pour adopter un animal. Après, eh ben, ça dépend ce qui se passe, quoi. Soit on sait pas comment fonctionne l'animal, donc à ce moment-là, il faut apprendre le fonctionnement de l'animal. Soit l'animal est très sensible, ce qui est possible aussi, parce que bon, l'animal, comme l'humain, eh ben, il peut avoir un niveau de sensibilité qui est différent en fonction des animaux. Et donc, un animal plus sensible réagira peut-être plus à des, on va dire, entre guillemets, des erreurs de comportement de l'humain.
De l'humain, oui.
Ouais, voilà. Donc, il faudra être un petit peu plus pointu dans la relation avec l'animal. Donc, il faudra être plus éthologue, entre guillemets, si on peut dire.
Comportementaliste animalier. Ça, c'est vraiment un métier qu'on découvre. Hein. Ce soir, vous êtes un peu la psy des animaux et de leur maître. On peut le dire comme ça.
Oui,
et de leur
on va
maître.
Dire surtout des maîtres.
Oui.
On va dire.
On a bien compris.
Parce qu'en fait,
ça.
Je travaille principalement avec les maîtres.
Ouais. Merci d'avoir été avec nous sur France Bleu. Bonne fin de soirée
Bonne
à vous.
Bonne soirée.
Et merci de nous avoir présenté votre métier surtout.
Vos témoignages, vos expériences. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
Et on va terminer cette émission consacrée à ceux qui travaillent avec les animaux avec Stéphanie à Bordeaux. Bonsoir Stéphanie. Alors vous êtes taxidermiste et j'en vois déjà qui vont hurler « Oh là là, ils font une émission sur ceux qui travaillent avec les animaux et ils vont nous parler d'empaillage ». On va être clair, Stéphanie, il faut aimer les animaux pour être taxidermiste, il faut les connaître.
Bien entendu.
Oui.
Leur redonner une seconde vie, c'est le but de ma profession.
C'est vraiment quelque chose que vous vouliez faire depuis longtemps ou c'est un peu les hasards de la vie, les rencontres?
Les hasards de la vie, les rencontres, tout à fait. Je voulais être vétérinaire étant jeune et par le biais de l'école des Beaux-Arts, il fallait faire un stage chez un professionnel et je me suis dirigée donc chez Monsieur Rouillon. Et ça a été un déclic, une révélation de pouvoir travailler après la mort. Voilà.
Vous parlez de Beaux-Arts, ça veut dire qu'aujourd'hui la taxidermie, c'est un art?
Tout à fait.
On considère comme un art?
Bien entendu, oui. Pour dénoncer des préoccupations importantes, des inquiétudes et des messages, des pensées que j'ai à exprimer. Et le biais de la matière animale est très pertinent, je pense, dans notre société.
Comment vous travaillez? C'est quoi, en quelques mots, la technique, la taxidermie? C'est quoi pour les gens qui ne connaîtraient pas?
Alors, je reçois un animal mort, entier ou en morceaux, ça dépend où des têtes. Je dépèce d'abord, je tanne la peau et après je remonte. Pour les petits mammifères, on empaille encore comme autrefois avec une structure en fil de fer. Et puis on garde le crâne qu'on fait bouillir, les os des pattes pour garder les bonnes proportions. Après, par contre, pour les gros animaux, les têtes de chasse traditionnelles, cerfs, sangliers, chevreuils de la région ou animaux d'Afrique, ce qui m'arrive souvent de faire, animaux de safari. J'ai des préformes en mousse polyuréthane sur lequel donc je vais appliquer la peau une fois qu'elle est tannée, et ce qui permet d'être imputrescible, léger, et d'être modifiable à volonté, de pouvoir scier, poncer comme on veut, et voilà.
Alors là, j'imagine bien, effectivement, on a un petit animal de compagnie qu'on veut garder, on fait appel à vous, mais sur les grands animaux, qui est-ce qui vous amène un ours, par exemple, ou un lion ?
Des particuliers qui partent chasser avec des guides de chasse, qui passent par des sociétés qui sont dédiées à ça, qui dépècent en fait les animaux sur place.
On peut ramener un lion d'Afrique.
Les salles. Alors il y a des nouvelles législations, mais qui changent très régulièrement ces temps-ci. Donc je vous dirai pas actuellement au jour J ce qu'il en est. C'est très compliqué en fonction des régions. Mais bien entendu, j'ai fait des lions, buffles, hyènes, bubales. Enfin voilà, je fais pas mal d'animaux d'Afrique. Donc les animaux sont dépecés sur place, les crânes bouillis, blanchis, et bien entendu ont des papiers, passent en douane, restent en quarantaine, et en général entre le moment où le client les a chassés en Afrique et où il m'arrive, il y a au moins entre 1 et 2 ans, et donc après sans compter le montage. Voilà, c'est très long.
D'accord. Quel est l'animal le plus impressionnant sur lequel vous avez travaillé, Stéphanie ?
Ce que j'aime, c'est le lion.
Ouais.
Impressionnant. En fait, chaque animal est tellement différent. Les techniques évoluent en fonction de chaque animal. Donc forcément, c'est passionnant. Je passe mes journées à prendre du plaisir. Chaque animal me plaît.
On parlait d'art tout à l'heure, et c'est vrai qu'on voit aussi de plus en plus d'animaux dans des galeries. On voit des animaux qui sont là aussi pour des mises en scène, beaucoup. Ça, c'est une autre partie de votre travail, ce côté artistique ?
Tout
ce côté
fait.
Mise en
fait,
scène.
C'est l'origine de ce travail-là. De venir ici, ça m'a permis en fait d'avoir à la fois le métier traditionnel qui me permet de vivre et en même temps d'exprimer ma passion. Moi je travaille surtout pour mon art, à vrai dire, exprimer justement des pensées fortes à travers les animaux, nous remettre en question en tant qu'être humain, notre part d'animalité dans notre société, et qu'est-ce que nous allons devenir et qu'est-ce que nous faisons de ces animaux-là.
Mais quand vous dites c'est ma façon à moi de m'exprimer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous allez les mettre en scène, ces animaux sur lesquels vous avez travaillé, vous les transformez aussi ?
Je ne fais pas de chimère, je ne mixe pas les races, mais je les mets en scène de manière, qui nous questionne ou qui nous fait rêver. J'ai fait une performance nue avec un cerf, expier le mal que l'on fait aux animaux, à échanger des choses un peu trash avec lui. Après, j'ai tiré une vidéo de cette performance. Lui, je l'ai mis, je l'ai naturalisé avec des bois de vie en néon rose sur sa plaque de marbre et une photo sous plexi et la daube du cerf. C'est une œuvre d'art totale. Après, je suis en train de faire d'autres pièces avec des animaux particuliers que j'ai grâce au cirque, que je récupère en fait. Dès qu'il y a des animaux morts, je me déplace, j'essaie de me procurer des espèces qui sont pas courantes, bien entendu, pour les pérenniser, pour l'avenir, pour les futures générations.
C'est facile de parler de votre métier sans qu'il y ait toujours cette émotion parfois, des détracteurs également. Est-ce que c'est facile aujourd'hui de dire « je suis taxidermiste, je suis naturaliste » ? Les gens comprennent ?
C'est vrai que c'est un métier en voie de disparition, encore plus étant une femme grande, rousse, qui n'est pas du tout dans le schéma typique du taxidermiste. Ça étonne beaucoup. Après, ils comprennent que moi, d'une, je ne suis pas chasseuse. Je respecte trop l'animal pour ça. Je l'aime vivant avant tout. Je lui donne une seconde vie, justement pour préserver ces espèces-là. Donc les gens, petit à petit, quand j'explique ma manière de faire et de créer, comprennent tout à fait. Les réfractaires, il y en a toujours, mais petit à petit, non, les mentalités évoluent.
Où est-ce
Je
qu'on...
vois par le biais de ma clientèle, de toute façon.
Où est-ce qu'on peut voir vos œuvres, Stéphanie ?
Alors, je suis à Codéran, avenue du Maréchal de l'Aide de Tassigny, au numéro 245. J'ai un site internet également, stéphaniebarthe.com. Je suis sur Facebook aussi, Stéphanie Barthe.
Non, parce que ça vaut le coup de se dire, tiens, on vient de vous entendre à la radio, de se dire qu'est-ce que ça donne en vrai, qu'est-ce qu'on peut voir. Et je pense qu'il y a plein d'auditeurs curieux qui ont envie de découvrir votre travail. On était ravis de vous avoir ce soir sur France Bleu. Merci beaucoup, Stéphanie, et bonne
Merci
fin de soirée.
Vous aussi.
Au revoir.